Place à l'invité avec Romain Cornet. 2 ans après l'attaque qui a décimé l'équipe de Charlie Hebdo, votre invité, Robin, c'est le rédacteur en chef du journal satirique Gérard Biard.
Bonjour Gérard Biard, vous étiez à Londres en vacances 7 janvier 2015 lorsque vos collègues, vos amis, les figures du journal Sharp, Kabu, Volinsky, T-News tombent sous les balles des frères Kouachi, 12 morts dont 2 policiers et des survivants ébranlés mais déterminés dont vous faites partie et qui ont remis sur pied le journal. Aujourd'hui, la rédaction de Charlie est installée dans un lieu qui est tenu secret, sous protection policière. Dans l'un de ses dessins, Rhys imaginait un dessinateur, crayon à la main, assis dans un coffre-fort blindé. Est-ce que c'est une bonne représentation ?
Alors, c'est une réalité, c'est vrai. On vit depuis 2 ans sous protection policière. On s'est installé dans des locaux archi-sécurisés. Mais c'est aussi, malheureusement, toute la presse en France, tous les médias vivent sous protection, sont obligés de prendre des mesures de sécurité, sont obligés de se protéger. Si vous allez à B, si vous allez au Monde, vous allez aussi avoir des mesures de sécurité qui n'existaient pas avant.
Après la tuerie du 7 janvier 2015, il a fallu tout reconstruire au sein de l'équipe, remobiliser bien sûr les énergies, affronter une pression qu'on imagine énorme. Parmi ceux qui ont échappé au drame, certains journalistes, certains dessinateurs sont restés, puis d'autres sont partis, hein, Luz, Patrick Pelou, Zineb El Razaoui, et puis d'autres sont arrivés. Une nouvelle équipe s'est installée, d'autres sont revenus, comme Renault hein, récemment. Mais finalement, sur le ton, sur le style Charlie Hebdo, rien n'a vraiment changé. Hein.
Mais évidemment, nous on n'a aucune raison de changer ni de ton, ni de ligne éditoriale. On essaye au contraire de la diffuser le plus possible, de profiter de l'audience que l'on a aujourd'hui, parce que voilà, Charlie Hebdo est scruté à la loupe. Dès qu'on fait un dessin un petit peu polémique, ça enflamme évidemment les réseaux sociaux et on se retrouve avec un nombre incalculable de trolls à nos trousses et l'objet de menaces, d'insultes, de menaces de mort toujours. Voilà.
Est-ce que ça, on y pense quand on écrit, quand on fait un dessin, à ce que ça risque de générer comme réaction ou bien vous passez outre ?
Bah, on y pense forcément, mais on passe outre parce que, d'abord, encore une fois, on est un journal satirique. Or, la satire, elle est faite pour provoquer des réactions. Une satire qui ne provoque aucune réaction, c'est une mauvaise satire. La satire n'est pas là pour faire plaisir à ceux qui en font l'objet. Donc ça, c'est un premier point. Et puis, l'autre point, c'est que on a un petit peu l'impression aujourd'hui que tout devient objet d'indignation. Je dirais que tout devient religieux, tout devient archi-sensible. Dès que l'on critique quelque chose, on a l'impression que ça devient ça aussi un blasphème. On commente un tremblement de terre en Italie, de la manière dont on l'a toujours fait, ça devient un blasphème. On parle d'un avion russe qui tombe dans le désert du Sinaï ou dans la mer Noire, ça devient un blasphème. Tout est en train là, aussi dans les réactions de se radicaliser, c'est très étrange.
Et ça, vous l'attribuez à quoi ? Au fait que Charlie Hebdo a maintenant une audience beaucoup plus large et qu'avec les réseaux sociaux, vos dessins, vos articles sont propulsés dans le monde entier, donc ça réagit en Italie, ça réagit bah, parfois, votre une avec Stromae avait fait réagir en Belgique, ça réagit aussi chez nous,
mais bien sûr, oui.
Auprès d'un public qui n'était pas votre public initial.
Non, évidemment, ça c'est un des aspects du problème, c'est qu'effectivement, en gros, le monde entier s'intéresse, entre guillemets, à ce que dit Charlie Hebdo, mais l'énorme majorité de ce monde ignore totalement ce qu'est Charlie Hebdo, et quelle est son histoire, et quelle est aussi l'histoire de la satire en France, qui a toujours été très politique et très virulent.
Outre le fait que vous avez quitté la niche dans laquelle vous étiez avant et que vous êtes plus exposé, est-ce que vous pensez qu'il y a aussi, quelque part, une évolution de la société, une sensibilité plus grande qu'avant ?
Oui, il y a une crispation qui est beaucoup plus grande. Il y a une instrumentalisation aussi qui est énorme. Une surcrispation sur, allez, pour le dire vite, sur ce que chacun va appeler sa propre identité. Mais le problème, c'est qu'on s'identifie comme musulman, on s'identifie comme catholique, on s'identifie comme homosexuel, on s'identifie comme handicapé, on s'identifie comme belge. Mais on oublie que chaque individu est bien plus que ça. Une identité, c'est pas quelque chose d'unique. Or, aujourd'hui, on essaye de ranger les gens dans des catégories définitives. C'est le problème qu'aujourd'hui a affronté, bien souvent malgré eux d'ailleurs, les gens d'origine musulmane en Europe. On les assigne à une identité exclusivement est définitivement musulmane, alors qu'il y a des athées parmi eux, il y en a beaucoup, et puis il y en a une écrasante majorité, je suppose, qui n'ont pas envie qu'on les définisse par une identité religieuse, qui considèrent à raison qu'ils sont aussi autre chose, et que ce, voilà. Il y a cette espèce de situation très tendue, elle aussi instrumentalisée politiquement, dans tous les camps d'ailleurs, hein, que ce soit à gauche comme à droite. Et voilà, donc comment un journal comme Charlie Hebdo, au milieu de ça, qui essaye de faire passer des idées et qui essaye de les faire passer à sa manière, on se retrouve souvent, et comme depuis un certain moment, en première ligne.
Après l'attaque contre Charlie, les Français avaient serré les rangs, il y a eu cet énorme mouvement de solidarité, les manifestants criaient « on n'a pas peur, on était tous Charlie ». Aujourd'hui, qu'est-ce qu'il en reste ?
Il faut aussi relativiser ce qui s'est passé au lendemain du 7 janvier. Le 7 janvier a été un énorme traumatisme et l'expression « je suis Charlie », c'était une expression de soutien, mais alors qui était pour certains très opportuniste, pour d'autres parfaitement sincère, et pour aussi une grande majorité une réaction face à un événement qui remettait en cause des valeurs auxquelles ils sont très attachés. Qui sont la liberté d'expression, la liberté de la presse, le fait simplement de pouvoir dire ou écrire quelque chose sans risquer de prendre une balle dans la tête, c'est quelque chose que, évidemment, l'écrasante majorité des populations du monde entier, d'ailleurs, sont attachées.
Aujourd'hui, vous diriez que le terrorisme a renforcé la société ou l'a plutôt affaibli ?
Il y a un peu des deux. Je pense qu'aujourd'hui, un des buts des attentats que l'on subit en France et partout dans le monde d'ailleurs, c'est de fracturer la société, justement. C'est de diviser, c'est de provoquer un chaos et des situations, disons, de guerre civile. Pour le moment, à l'exception de quelques incidents isolés, ça ne s'est pas produit. Je trouve ça plutôt rassurant. Je trouve plutôt rassurant que pour l'instant, on n'est pas de ratonnade et on n'est pas de pogrom anti-musulman. Je ne sais pas si ça va durer. On est en France, en tout cas, on rentre dans une année électorale, c'est le cas aussi en Allemagne d'ailleurs, où ces sujets-là sont portés à l'incandescence. Ça renforce d'ailleurs le risque que de nouveaux attentats se produisent. Précisément parce que nous sommes en année électorale et que jouer sur cette tentation de fracture des sociétés occidentales, c'est une des parties de la stratégie.
Dans ce monde aujourd'hui, avec à la fois, c'est vrai, la montée de ces radicalismes religieux, mais aussi de certains radicalismes politiques à droite, la satire est plus que jamais nécessaire ?
Bah, bien sûr, parce que la satire, ça permet de mettre en lumière... Alors parfois violemment, c'est vrai, mais ça permet de mettre en lumière une situation d'une manière finalement très limpide. La satire, comme la caricature d'ailleurs, a pour but de mettre le projecteur sur ce qui est important. Donc évidemment que la satire est indispensable parce que c'est peut-être la satire et seulement la satire qui aujourd'hui permet de... poser les vraies questions, poser les vrais problèmes.
Après les attentats, beaucoup de gens s'étaient abonnés à Charlie Hebdo ou avaient acheté des journaux. C'était une façon de vous soutenir aussi et de soutenir la liberté d'expression. Hein. Pas nécessairement par adhésion à Charlie Hebdo, mais par adhésion à l'idée qu'il fallait défendre une presse libre. Aujourd'hui, votre viabilité, si je puis dire, elle est assurée ?
Bah oui, écoutez, on s'est stabilisé à autour de 50, entre 50 et 60 000 abonnés, à peu près la même chose en kiosque, plus l'export. Pour ce qui est de la version allemande, on attend les retours pour voir un petit peu ce que ça donne. Charlie Hebdo, c'est un journal qui n'a pas d'actionnaire extérieur, qui n'a pas de publicité, donc qui vit et qui a toujours vécu exclusivement de ses ventes et de ses abonnements. Voilà.
Version allemande qui vient de sortir, c'est le premier pas vers une expansion vers d'autres langues encore ou bien on n'est pas encore là ?
On n'en est pas encore là. Attendons de voir déjà pour le moment. Non, l'idée avec la version allemande, c'était justement de faire comprendre, en permettant aux gens de se prononcer en toute connaissance de cause, ce qu'est Charlie Hebdo, ce qu'est cet humour, et puis de montrer que finalement, bah, cet humour, il est pas si franco-français que ça. Il est pas, c'est pas un humour franchouillard. C'est pas un humour intraduisible. Et c'est pas un humour inadaptable. D'autant que, a priori, l'humour allemand et l'humour français n'ont pas pour réputation d'être identiques. Donc voilà, on attend, on ne sait pas encore ce que ça va donner sur le long terme, mais si ça fonctionne, bah, on verra après, mais c'est beaucoup de travail.
Merci Gérard Billard, rédacteur en chef de Charlie Hebdo. Et puis Sam Touzani nous a rejoint en studio, bonjour Sam.
Bonjour, bonjour.
Gérard Biard parle d'une société qu'il sent de plus en plus crispée, notamment sur les questions identitaires qui vous intéressent beaucoup et dont vous parlez dans les spectacles. Cette crispation de la société, est-ce que c'est quelque chose que vous ressentez aussi ?
Oui, à la fois je ne peux que partager le constat de Gérard. Il me semble qu'il a raison qu'à l'endroit de l'identité, les identités se revendiquent de manière de plus en plus violente. La force est de constater, c'est que ça pète un peu de partout. Néanmoins, j'ai l'impression qu'il y a aussi une espèce de contrepoids qui s'installe. J'ai le sentiment quand même que les gens sont plus aujourd'hui dans une volonté de dialoguer, dans une espèce de force de l'échange, et ils combattent un peu la force de la violence. Mmh. Alors, la question d'identité est une vraie question, est une question universelle, et je pense qu'il faut arrêter aussi de regarder la société par le prisme de l'ethnico-religieux, que nous devrions, me semble-t-il, regarder la société par le prisme de la citoyenneté. Voir ce qui nous rapproche, c'est la citoyenneté, c'est notre humanité. À force de revendiquer tous ces particularismes effrénés, il me semble que ça remet en cause le principe d'égalité. Donc pour que je sois, pour que vous puissiez écouter ma différence, il me semble que je dois d'abord être votre égal. Et si nous ne sommes pas égaux, ça ne marche pas.
Alors votre spectacle Liberté, Égalité, Identité parle entre autres de ça, c'est à voir au public et la première, c'est ce soir la première d'une série d'un mois au public à Bruxelles. L'impression dont Gérard Biard parlait, que désormais l'identité, il faut un peu choisir son camp. On est placé dans des cases, c'est difficile d'en sortir. Ça, c'est quelque chose que vous constatez aussi ?
Oui, enfin moi je suis convaincu d'abord que les étiquettes sont faites pour être retirées et que les cases, tout est bien à condition d'en sortir. Mais oui, effectivement, il y a à l'endroit, en tout cas de l'identité, une espèce de crispation. On se revendique d'abord musulman ou d'abord juif ou d'abord chrétien ou d'abord athée, or qu'on devrait tout simplement se revendiquer d'abord être humain. Point. Mais il y a encore du boulot de ce côté-là.
Alors vous êtes, vous, un grand militant de la laïcité, ça c'est pas du tout un secret. Les réactions de plus en plus virulentes sur les réseaux sociaux dont parlait Gérard Biard en début d'interview, est-ce que vous y êtes aussi confronté quand vous prenez ce genre de position ?
J'ai envie de vous dire, malheureusement, oui, Internet est un magnifique outil et puis on y trouve le meilleur et le pire, et malheureusement le pire. Et je pense que nos détracteurs ou les ennemis de la liberté s'organisent beaucoup mieux que les défenseurs de la liberté, parce qu'ils s'organisent en réseau, ils agissent très très vite, ils vous bombardent d'insultes, c'est souvent des injures, des attaques ad hominem, et je pense qu'il y a un travail aussi pédagogique, j'ai envie de dire, à faire. En tout cas, il faut occuper l'espace. Vous savez, la nature.
Il faut s'organiser pour répondre à ça. C'est ça que vous voulez dire.
Exactement. Il faut s'organiser en réseau et il faut créer des sites, des réseaux progressistes, laïques. Et puis surtout ne pas avoir peur de nommer les choses. Vous savez, je suis un grand admirateur de Camus. Je ne cesse de le citer. Camus disait: mal nommer les choses, c'est ajouter au malheur du monde. Ce qui veut peut-être dire, par extension, que bien les nommer peuvent être ajouter au bonheur du monde. Il faudrait peut-être aussi commencer par là, c'est-à-dire il faut nommer les choses, avoir, et ça je pense que c'est l'enjeu du 21e siècle, c'est de pouvoir rire non seulement de son propre sacré, mais du sacré de l'autre, sans pour autant sortir les kalachnikovs.
Un an après l'attaque de Charlie Hebdo, vous aviez tourné pour Question à la Une, une espèce de carte blanche sur cette question de qu'est-ce que être Charlie aujourd'hui, et on peut revoir d'ailleurs ce Question à la Une sur notre site Ovio, aujourd'hui. Être Charlie, est-ce que ça a encore une signification ?
Ah, profondément. Alors moi, je suis Charlie, je suis toujours Charlie. Charlie représente pour moi la liberté d'expression dans ce qu'elle a de plus irrévérencieux. Je pense qu'il est important de se battre au nom de la liberté d'expression, de pouvoir dire, de pouvoir critiquer, de pouvoir faire des caricatures, dessiner. Il n'en va de notre liberté à tous.
Et vous n'avez pas l'impression que malgré tout, il y a peut-être plus d'autocensure qu'avant parce qu'on sait toute la sensibilité de ces sujets ?
Malheureusement, bien plus que la censure, il y a de l'autocensure et elle est bien plus, j'ai envie de dire, perverse que la censure elle-même. Mais je pense qu'il faut d'abord travailler contre soi, d'abord travailler contre ses propres préjugés et puis surtout contre ses propres peurs. Malheureusement, elle nous guette, l'autocensure, mais il faut la combattre autant, si pas plus fort, que la censure elle-même.
Alors je sais que vous, comme d'autres, allez parfois dans les écoles à la rencontre des jeunes. On en a beaucoup parlé juste après Charlie, c'était un sujet très sensible à aborder, cette idée qu'on pouvait caricaturer aussi le sacré. Est-ce que 2 ans après, la sensibilité est un peu moins exacerbée ?
Un peu moins exacerbée, mais toujours là. C'est-à-dire qu'on a juste décidé, et c'est peut-être le plus important, d'être d'accord, de ne pas être d'accord. Je pense qu'à la fois les professeurs, la société civile fait un travail pédagogique, pédagogique, parce qu'il faut quand même passer par là, un travail qui est pour la force de l'échange, et ça se passe pas toujours bien, je dois vous avouer, mais en tout cas, la parole se libère. Et c'est bien quand la parole se libère, tant que ce n'est pas une parole de haine qui incite à la haine.
Il faut le faire dans les classes, il faut le faire aussi ailleurs, dans les médias ou dans d'autres espaces.
Oui, moi je pense qu'il faut le faire partout et tout le temps. Dans les écoles, c'est important parce que c'est là où se forme le futur citoyen. Mais ça doit se faire aussi, ça se fait d'ailleurs, dans les théâtres, dans les associations. Voilà, même s'il y a parfois aussi une tendance, vous savez, au repli communautaire, parce que on écoute, je m'aperçois aussi de ça, après 20 ans de tournée, j'ai envie de dire, dans les écoles, on accepte avant tout sa propre lecture politique. Et on a difficile à accepter celle de l'autre. Et je pense que chacun doit faire un pas.
Merci Sam Touzani. Votre spectacle, on le rappelle, au théâtre Le Public, Liberté, Égalité, Identité.
Soyez les bienvenus, merci à vous.
Belle journée.